Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La neutralité du net est-elle menacée? La FCC, le régulateur américain des télécoms, doit se prononcer demain sur la suppression de ce principe réglementaire mis en place aux États-Unis en 2015 sous l'administration Obama. Suspense limité dans la mesure où 3 des 5 membres de la commission chargée de statuer ont été nommés par Donald Trump. Peut-être le début de la fin pour l'Internet neutre. Alors la neutralité du net, c'est un principe qui a d'abord été non écrit avant d'être inscrit dans la loi. C'est le cas en France, par exemple, depuis 2016. Il impose ce principe aux fournisseurs d'accès de ne discriminer aucun contenu, ni émetteur ou destinataire. Autrement dit, tous les contenus, quels qu'ils soient, ont le droit d'être acheminés de manière identique vers les internautes, au même tarif, sans privilège pour les uns ou restriction pour les autres. C'est cet Internet ouvert, considéré comme un bien commun, que contestent les fournisseurs d'accès aux États-Unis. Premier argument, il n'est pas normal que des services qui consomment beaucoup de bandes passantes, les vidéos de YouTube par exemple, soient traités de la même manière que des contenus moins gourmands. Second argument, cette absence de discrimination briderait la concurrence, donc l'innovation, et menacerait à terme la richesse que propose l'Internet. Alors dans chaque camp, on brandit en général l'intérêt du consommateur pour justifier ses propres arguments. Alors faut-il sauver la neutralité du net ? C'est la question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de 3 invités. Axel Lemaire, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne secrétaire d'État chargée du numérique, c'était pendant le quinquennat de François Hollande, en tout cas une partie de son quinquennat. C'est vous qui avez porté la loi pour une république numérique qui a été élaborée suite à une large consultation et a été inscrit dans cette loi justement le principe de la neutralité du net. Pour discuter avec vous, Michel Combeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de la FFT, la Fédération Française des Télécoms, qui regroupe donc les opérateurs de téléphonie. Vous étiez auparavant directeur général adjoint du CSA. Vous êtes également passé par l'ARCEP, je le signale. L'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms en France. Et puis, troisième invité, Valérie Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Vos recherches portent notamment sur le droit des technologies de l'information et de la communication, les TIC, les libertés et les droits fondamentaux. Alors, la neutralité du net, j'ai essayé de la définir de manière un petit peu rapide, comme je le fais chaque soir quand on lance des sujets un petit peu complexes. Est-ce que vous avez peut-être envie justement de préciser les contours de ce que représente cette neutralité, Valérie Nicolas ?
Oui, je pense qu'on peut peut-être essayer de distinguer d'abord Internet comme sous un double aspect, autant une architecture qu'un contenu. Et puis, dès lors qu'on parle de neutralité, on fait souvent appel à tout ce qui pourrait, le spectre du contrôle du contenu quand on porte atteinte à la neutralité. Mais la neutralité, c'est quand même quelque chose de plus vaste. C'est un principe qui vise à préserver de toute atteinte, de toute discrimination, non seulement l'accès à l'architecture. Et donc, ça n'est pas le contenu, là, c'est l'accès au système même. Et puis ensuite, pas de discrimination et donc un traitement neutre des fournisseurs d'accès et y compris du contenu qui est mis sur le net et qui peut être mis aussi par l'internaute. Donc le spectre est large, plus large que ce que l'on a l'habitude de mettre en évidence.
Axel Lemaire, c'est un principe qui n'était pas suffisamment respecté pour qu'il y ait eu besoin de l'inscrire dans la loi ?
Non, je pense qu'il y a eu, au moment où ça a été inscrit dans la loi, un momentum politique et qu'il était important, notamment pour éviter ce qui est en train de se passer aux États-Unis, de l'affirmer comme principe en droit positif et pas uniquement de compter sur l'autorégulation du secteur de la part des opérateurs de télécommunications, ce qui était le cas jusqu'à présent. Peut-être qu'un rappel du calendrier est utile, parce qu'il y a eu un écho entre ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé aux États-Unis à cette époque-là. D'abord, c'est l'Europe qui, la première, a voulu affirmer ce principe de neutralité. Il y a eu une proposition de la Commission européenne à laquelle a répondu le Parlement européen, puis c'est arrivé en Conseil des ministres, donc représentant chacun des 28 pays de l'Union européenne. Et pendant qu'il y avait ces allers-retours, eh bien, aux États-Unis, le président Barack Obama a demandé au régulateur, la FCC, de l'aider à faire entrer ce principe dans l'ordre juridique américain. C'était pour les États-Unis en 2015. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvée au sein du gouvernement français a négocié en même temps à Bruxelles pour représenter la position de la France, le contenu du règlement européen consacrant ce principe de la neutralité du net, et quelques mois plus tard à l'intégrer dans la loi française, mais en ayant très conscience et en suivant énormément l'actualité américaine, parce que l'air de rien, l'Europe à 28 et les États-Unis qui affirment pour la première fois de manière historique ce principe, eh bien, ça crée quand même un précédent.
Eh ben, on verra justement dans un instant si la décision attendue demain, avec un certain nombre de craintes hein, pour de nombreux acteurs de l'Internet, si cette décision est bien celle qui est annoncée, si ça peut avoir des conséquences sur l'Europe. Et pour rester en tout cas sur cette inscription dans la loi de ce principe important qu'est la neutralité du net, Michel Combeau, qu'est-ce que ça a changé dans les pratique des opérateurs de télécommunications français, le fait d'avoir ce principe-là? Est-ce qu'il a fallu ajuster certaines pratiques?
Je dirais que le principe de neutralité d'Internet est assez ancien déjà. Il y a quand même aussi un corpus juridique en Europe qui effectivement remonte hein, au début des années 2000. Hein. Même les directives européennes de 2009 ont commencé effectivement à définir un petit peu aussi quel était ce que l'on devait offrir aux concitoyens, à nos clients, c'est-à-dire un accès Internet ouvert, et effectivement aux opérateurs de fournir effectivement cet Internet ouvert sans discrimination. Ce qui est venu finalement préciser le règlement européen en 2015, hein, qui est d'application immédiate. Donc nous, effectivement, après, on a commencé à travailler avec les régulateurs hein, au sein du BEREC et avec l'ARCEP en France pour voir comment mettre en œuvre ces principes, mais que nous mettions en principe. Parce que c'est une demande de nos clients, celle effectivement d'accéder à l'Internet et de pouvoir accéder à ces contenus, pouvoir utiliser ces applications, connecter n'importe quel terminal. Ça, c'est une demande de nos clients. Et en France, et c'est aussi la grande différence avec la situation américaine, on a un degré de concurrence beaucoup plus élevé, des prix plus bas. Et finalement, si l'internaute ne retrouve pas ce qu'il souhaite dans les offres de son fournisseur, eh bien, il change.
Donc finalement, vous nous dites quoi, Michel Combeau, finalement, même si la loi n'existait pas, en tout cas si ce principe n'était pas inscrit dans la loi, ça n'aurait pas modifié les pratiques des opérateurs de télécom, ils appliqueraient quand même cette neutralité du net?
C'est une demande de nos, de nos clients, en tout cas. Il est clair, c'est qu'un internaute qui n'est pas content parce qu'il retrouve ou ne trouverait pas des services qu'il souhaite, bah, irait voir un autre fournisseur d'accès.
Il y a quand même, si je peux me permettre, des pratiques ou des techniques, par exemple, qu'on appelle voice over IP, qui ont disparu. Notamment grâce à la mise en œuvre. Je vais citer une marque, hein, c'est Skype. Et Skype qui concurrence directement les services premiers fournis par les opérateurs de télécommunications. Donc on peut comprendre de la part d'un opérateur qu'il aurait été très tentant de fermer le robinet de Skype, c'est-à-dire de pouvoir communiquer par la voix en utilisant un Internet fourni par un opérateur, mais qui finalement est un service directement concurrent. Donc de dire, on ferme le robinet de Skype. Eh bien non, ça, ce n'est pas possible quand on applique le principe de neutralité de l'Internet.
Valérie Nicolas.
Oui, non, sans pour autant faire de l'histoire, je pense que, et c'est une histoire récente, vous dites qu'il a fallu s'adapter. Le contexte est quand même fragile et je pense que dans les pays de l'Union, il y a encore un certain nombre de commentateurs ou de personnes avisées qui pensent que les groupes de pression sont nombreux à vouloir faire tomber le principe où qu'il soit reconnu, donc y compris chez nous, et que donc le fait qu'il ait été consacré dans un texte législatif lui donne la force du texte dans lequel il se trouve, mais plus encore, signifie à tous ceux qui ont crainte de le voir disparaître et de voir certaines pratiques non cantonnées ou non limitées, ou crainte que l'absence de consécration les favorise. Alors de ce fait, on constate, comme le dit Axel Lemaire, que certaines pratiques n'existent plus et qu'on a pu mettre le doigt sur certaines choses qu'il fallait relever et sur lesquelles il fallait réfléchir, comme par exemple les services spécialisés, comme par exemple l'exception au principe de neutralité qui peut être le fait de tous les services qui passent par la vidéo et qui nécessitent des bandes passantes plus importantes, et pour lesquelles, exception, il faut que l'ARCEP réfléchisse, qui constitue une forme d'exception au cas par cas, et ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant, ou tout du moins sur lesquelles on ne focalisait pas l'attention de la même manière que maintenant.
Michel Combeau, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire appliquer d'un point de vue, technique, ce principe de la neutralité du net, c'est-à-dire l'absence de discrimination, quel que soit le contenu. Ou bien est-ce que ça demande un effort particulier?
Je dirais que c'est le principe le plus simple, parce que je dirais aller mettre des sondes dans les réseaux pour observer ce qui se passe, filtrer tel ou tel paquet, ça consomme des ressources immenses. La chose la plus simple pour l'opérateur, c'est de fournir un accès non discriminatoire à son client, tout simplement parce que, un, c'est ce qu'il demande, et deux, ça consommerait des ressources internes chez les opérateurs qui seraient juste immenses au regard de l'avantage, et encore qu'il n'existe aucun avantage, à filtrer du contenu chez l'internaute. Donc en tout cas, pour nous, le plus simple, c'est ce qui est demandé par client, c'est de ne pas filtrer. Et je voulais quand même revenir, pour nous, le plus gros danger que l'on voit au niveau européen et même au niveau français, c'est plutôt la tentative, je dirais, de régulation, de contrôle de l'Internet pour un certain nombre de politiques. On a eu le cas il y a quelques années, effectivement, autour de la création de la Hadopi. On a le cas, effectivement, maintenant, avec les dernières annonces du gouvernement ou même les tentatives à nouveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel de réguler Internet et les contenus. Pour nous, c'est effectivement le plus grand danger. C'est celle, effectivement, des politiques publiques qui souhaiteraient regarder ce qui se passe dans l'Internet pour dire bah, telle chose ne peut pas passer et on doit donc filtrer et couper l'accès au site. Et c'est pour nous effectivement l'un des enjeux majeurs des années à venir, c'est effectivement ce contrôle de l'Internet qui, voilà, de temps à autre revient sur la table des, je dirais, des pouvoirs publics.
Vous dites, Michel Cambeau, il n'y a aucun intérêt pour les opérateurs à filtrer certains contenus. Bah, si, il peut y en avoir un. C'est que vous pouvez monnayer, du coup, différemment l'accès aux tuyaux. C'est-à-dire, vous pouvez dire à ceux qui vont avoir accès au contenu, bah, voilà, si vous voulez qu'on fasse acheminer vos contenus via nos fournisseurs d'accès, bah, il va falloir payer davantage. Ça s'appelle une négociation, ça s'appelle la concurrence. Non, ça n'existe pas chez les... Parce que c'est quand même un des arguments qui est très présent du côté des opérateurs de téléphonie aux États-Unis.
Alors je dirais effectivement, alors c'est vrai que la manière dont la manière dont on valorise nos réseaux, c'est aussi notre droit et ce que l'on réclame. Ça valorisait nos investissements dans les réseaux. C'est 72 milliards d'investissements sur 10 ans. Il faut aussi les valoriser. Nous sommes des entreprises, effectivement, privées. La première des valorisations, c'est de fournir aux clients des services et qu'ils souscrivent, effectivement, des services. Un service d'accès Internet, des services de vidéo à la demande. C'est ce qui est demandé par nos clients. Et c'est notre capacité à lui fournir ces services innovants et notre capacité à pouvoir continuer à les offrir qui nous permettra de valoriser économiquement nos investissements. C'est pour nous notre première priorité.
Valérie Nicolas ?
Oui, mais effectivement, je pense d'ailleurs que le consommateur, quand il se trouve face à l'offre, la meilleure des tentatives d'équilibre ou des recherches d'équilibre entre l'intérêt du consommateur et la préservation de la neutralité et la recherche du profit, parce qu'il faut quand même le dire, pour des entreprises privées qui fonctionnent sur ce système-là, c'est justement de permettre que le consommateur dise ça, non, ça je ne paye payerai pas plus cher pour l'accès à tel service, donc je me détourne et je vais payer moins cher pour l'accès au même service par un autre opérateur. Donc effectivement, la neutralité, donc cette concurrence, elle peut être aussi une manière d'équilibrer les actes. Enfin, il y a une recherche d'équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que neutralité, c'est une chose. Avoir un accès, une fourniture neutre d'un service au consommateur, ça c'est quelque chose qui est important. Y porter atteinte, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans une attitude qui n'est pas possible dans la loi française et en Europe. Mais si tenté que cela puisse se faire, c'est quand même le consommateur qui décide. Donc c'est une manière qu'a le consommateur de favoriser et préserver in fine, la neutralité du net.
Axel Lemaire, si j'écoute ce que dit Michel Cambeau, donc directeur général de la Fédération française des télécoms, j'imagine que ça a été plutôt facile de faire passer cette neutralité du net dans la loi, parce que a priori, ceux qui étaient peut-être les plus à même de s'y opposer, manifestement, étaient plutôt partants pour le faire.
J'ai pas toujours entendu ça. Donc tant mieux si aujourd'hui le principe législatif est totalement intégré et accepté. Même si j'ai pas le sentiment que ça soit le cas chez tous les opérateurs, puisque j'entendais le PDG d'Orange tout récemment expliquer qu'avec l'arrivée de la 5G, des services liés aux objets connectés, le principe de neutralité du net serait forcément mis en cause. Or, ce principe existe quel que soit les technologies émergentes. Mais
et au moment de la conception de la loi, c'était quoi les arguments qu'on vous opposait?
Ça n'a pas toujours été facile, même si les opérateurs avaient bien compris que les négociations principales se tenaient à Bruxelles. Ce que la loi a fait, je crois que la France a été le premier pays à le faire, ça a été de doter le régulateur national, en l'occurrence l'ARCEP, de pouvoir d'enquête, y compris d'enquête administrative, ça veut dire concrètement d'aller voir ce qui se passe dans les tuyaux, de faire des saisies, d'aller à la rencontre des personnes physiques ou morales, etc. Pouvoir de règlement des différends sur ce sujet spécifique, et puis de pouvoir de sanctions, y compris de sanctions financières, c'est-à-dire doter d'un bras armé le contrôle du respect de l'application de ce principe. Donc forcément, ça n'a pas tellement plu à l'époque, mais je dirais que c'était plus le package qui n'avait pas plu, parce qu'il se trouve que dans le cadre de ces négociations européennes, il y avait aussi la suppression des frais d'itinérance, ce qu'on appelle le roaming en anglais, au niveau européen. D'ailleurs, ça a été consacré en juin de cette année. Dorénavant, les consommateurs qui voyagent en Europe ne payent plus de frais d'itinérance. Et donc, c'est l'un avec l'autre qui a été un peu la douloureuse pour les opérateurs de télécommunications. Maintenant, tant mieux s'ils ont compris que c'est dans leur intérêt de revenir au cœur de métier, c'est-à-dire le déploiement des infrastructures. Et ce qui fait le critère de différenciation de qualité dans les offres de services de ces opérateurs, c'est bien le niveau de couverture et sa qualité selon l'endroit où on se trouve. Et je ne pense pas que si on demandait aujourd'hui aux Français s'ils accepteraient de choisir entre telle offre qui, avec un accès privilégié à tel fournisseur de contenu vidéo, avec tel réseau social mais pas un autre, avec telle option de paiement en ligne mais pas une autre, etc., eh bien, ça nuirait énormément à la lisibilité de l'offre sur le marché.
Vous évoquiez le pouvoir de contrôle et éventuellement de sanctions de l'ARCEP, qui est donc le régulateur. Est-ce que ce pouvoir-là a dû être utilisé? Est-ce qu'il y a eu des occasions depuis que ce pouvoir existe, ou bien est-ce que finalement les fournisseurs d'accès se sont plutôt bien conduits, Valérie Nicolas ?
De ce que je peux en savoir, je sais que des négociations ont eu lieu et des discussions entre les différentes parties prenantes, et d'abord l'ARCEP d'un côté et les opérateurs de l'autre, des discussions précises pour les faire venir aux raisons de l'ARCEP, qui est Et moi, je tiens à le signaler parce que je suis un peu fan de cette loi pour une république numérique, parce que c'est vrai qu'on est quand même à la pointe de ce que l'on pouvait attendre dans les pays de l'Union européenne.
Vous avez quelque chose à demander à Axel Le Maire après l'émission, non?
J'ai rien du tout à lui demander. Mais non, parce que elle a déjà donné ce qu'on attendait. Je pense sincèrement que là, l'ARCEP a un rôle à jouer, que l'organe le joue, et qu'elle le joue en plus dans le respect des indications ou des recommandations de l'organe européen de régulation des télécommunications qui s'appelle le BEREC ou l'ORES.
Voilà, c'est l'équivalent donc.
Voilà, c'est l'équivalent en français ou en anglais, et qu'elle le fait bien, et que pour l'instant on n'a pas de décision de sanction qui puisse être mise en évidence contre un opérateur.
Vous qui avez connu les deux côtés de la force, si j'ose dire, Michel Combeau, l'ARCEP et maintenant la Fédération française des télécoms.
Alors, je veux juste revenir, hein, parce que c'est vrai que si pour nous le principe de neutralité est un principe qui est clé, parce que c'est aussi ce que demandent nos clients, pour autant c'est vrai qu'on essaye, c'est un vrai sujet au niveau européen, c'est cet aspect de surréglementation. Parce que notre capacité à innover dépend aussi des degrés de liberté dont nous avons, dans le respect effectivement du contrôle des régulateurs et du juge.
Et est-ce que la neutralité du net est un obstacle à cette liberté d'innover?
Cette neutralité, non. Par contre, parfois, c'est les débats qu'on a eus de manière parfois un peu tendue, y compris avec l'ARCEP, c'est jusqu'à quel degré de contrôle, y compris avant même que nous commercialisions des offres, doit-on arriver? Est-ce qu'on doit juger une offre en fonction de ce qu'elle est une fois qu'elle est commercialisée et une fois qu'elle est sur le marché? Ou est-ce qu'on doit tout régenter, la couleur de nos affiches et le niveau de police de nos offres commerciales? C'est un vrai enjeu pour nous, qui effectivement est assez sensible. Quant effectivement à la première année d'application, je dirais, du règlement et des lignes directrices du BEREC, là le BEREC a publié aujourd'hui son premier rapport d'application, très peu de cas finalement à traiter. Le seul cas était une offre, je crois, en Allemagne, en fait, où un fournisseur avait discriminé entre une offre au moment où le débit baissait parce que l'abonné avait consommé trop de data, il privilégiait une offre par rapport à une autre. C'était le seul cas en Allemagne. Et donc, je dirais, à ce stade, je dirais, tout va bien.
On peut d'ailleurs préciser, hein, pour ceux qui le souhaiteraient ou qui seraient face à cette éventualité, qu'il y a des possibilités de signaler des manquements, justement, cette neutralité du net, soit directement à l'ARCEP, soit il y a également une plateforme européenne citoyenne qui s'appelle Respect My Net. Voilà, on a mis le lien notamment sur notre site. Valérie Nicolas ?
Oui, vous citez un exemple allemand, vous ne citez donc pas d'exemple français d'une évidente atteinte au principe. Je signale simplement que justement ça montre que peut-être les négociations et les discussions entre l'ARCEP et les opérateurs français ont abouti à une forme de raison.
Il y a eu une annonce il y a quelques heures d'un des gros opérateurs de télécommunications qui s'appelle SFR, qui annonce avoir renoncé à son plan de couverture de 100% du territoire en fibre Internet. Moi, je me suis demandé s'il pouvait y avoir justement un lien entre notre sujet ce soir, puisque aux États-Unis, les opérateurs télécommunications disent c'est à cause de la neutralité du net qu'on manque d'innovation, donc qu'on manque d'investissement. Est-ce que là, on peut également faire le lien? Je ne sais pas ce qui voudrait répondre, Michel Combeau, parce que j'arrive pas très bien à comprendre finalement, mais c'est peut-être pas plus mal. Mais pourquoi il y a une telle différence de point de vue entre d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique?
Je pense aussi c'est que la structure du marché est différente, la structure aussi de régulation, de réglementation est différente en France et en Europe. Le marché a été ouvert à la concurrence par des directives, puis par des lois, mise en place de régulateurs nationaux qui ont été dotés de compétences et renforcés au cours du temps en fonction des sujets. Et donc, il y a eu une éducation du marché. Le client aussi, au départ, a connu, je dirais, cette liberté de choix. C'est ce qu'il m'a dans le demande. Donc, je dirais, on a un historique plus fort, plus construit, et une relation aussi, je dirais, de confiance parfois, de tension aussi, avec le régulateur, mais cette relation de long terme qui nous a permis effectivement ces investissements dont je rappelais les montants sur les 10 dernières années. Donc clairement la situation est complètement différente où la FCC a le pouvoir à la fois de régulation, de réglementation, la loi est finalement très vague et il n'y a pas la notion même de directive entre pays. Donc on a ce corpus effectivement qui s'est construit au fil du temps, parfois que nous aimerions un petit peu plus léger pour avoir aussi et conserver nos degrés de liberté. Mais clairement, la situation est effectivement pas comparable. Quant aux annonces de SFR, il faut les replacer dans le contexte, celle de discussion avec le gouvernement, et s'assurer effectivement qu'on investit dans un réseau une fois et pas deux fois. Donc ce n'est pas l'abandon, je dirais, d'investissement de SFR, bien au contraire. SFR souhaite maintenir ses investissements là où, effectivement, il y aura besoin d'investir.
Axel Le Maire, sur la comparaison entre...
L'annonce de SFR n'a rien à voir avec le sujet de la neutralité du net. Simplement, d'abord, c'est un opérateur qui est relativement endetté, donc qui doit peut-être choisir ses priorités de déploiement, et qui, en l'occurrence, a décidé de ne pas aller déployer de la fibre optique là où c'était déjà fait, soit par un autre opérateur, soit surtout par des collectivités locales, dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Et de toute façon, SFR a été effectivement rappelé à l'ordre, et en France, et par la Commission européenne, parce que un déploiement parallèle d'un second réseau, ça ne fait pas tellement de sens. Ce qu'il faut, c'est assurer une bonne connexion. Est-ce qu'on a besoin d'infrastructures qui se démultiplient? Ce n'est pas tellement le sujet. Par contre, j'aimerais bien revenir à des fondamentaux. On a parlé beaucoup d'économie, de concurrence, de régulation. La neutralité du net, c'est aussi un principe qui garantit une égalité d'accès social, parce que ça évite de faire payer selon le poids du portefeuille des consommateurs. Ça permet de promouvoir et de garantir une forme de diversité culturelle dans l'accès et la diffusion de l'information. Sinon, il y a une prime au plus gros. Sinon, ça voudrait dire que ce sont les Netflix et autres qui sont très producteurs de contenu audiovisuel qui passent en premier, et parce qu'ils payent les tuyaux et l'accès, eh bien, alors les plus petits disparaissent. Et puis, il y a un enjeu aussi de liberté d'information et de liberté d'expression. Et donc, c'est pas... Oui, c'est de l'économie, mais ce n'est pas que de l'économie. Finalement, c'est quand même une certaine conception d'un Internet ouvert et donc universel qui est en jeu.
Oui, du bien commun, d'un Internet qui est le bien commun. Et effectivement, et un patrimoine commun. Internet, open Internet, et en même temps, neutrality du net. Ok, neutrality. Moi, je veux bien...
Patrimoine commun qui est aussi alimenté par des intérêts privés et parfois hégémoniques.
Hein, je vais dans votre sens, Madame Le Maire, je vais dans votre sens... Il faut revenir à des choses toutes basiques. Cette Union européenne, elle est quand même fondée sur la liberté de circulation, et ce sont des libertés économiques. Et cette liberté d'entreprendre, qui est celle qui va de pair avec la liberté de circulation des capitaux, des personnes, bon, je ne vais pas décliner ça. cette liberté d'entreprendre, elle a une déclinaison qui peut être sans frein si le droit ne se place pas en face pour l'organiser. Et la liberté et la neutralité du net, le principe de neutralité du net, est un des freins à cette économie débridée qui pourrait être celle des entreprises qui sont là pour faire du profit et qui sont là pour faire du profit sans être altérées dans cette quête. Et donc je pense que là le droit il a sa raison d'être. Et vous dites monsieur notre co-intervenant, vous dites que il y a trop de réglementation, que cette régulation elle peut être gênante, qu'elle peut être constitutive de freins. Je trahis certainement vos propos, c'est certainement pas exactement comme ça que vous l'avez dit, mais on sent quand même que le droit n'invite pas à la joie pour le business et qu'il est d'une certaine manière un frein au profit. Et moi je pense qu'il peut constituer aussi un moyen de faire du profit, mais de manière organisée et dans l'équilibre, en favorisant la liberté d'expression ou en aidant à ce qu'elle ne soit pas atteinte, et puis dans l'équilibre d'accès social et donc dans l'égalité, c'est quand même, ce sont des choses qui méritent d'être protégées, ce sont des éléments et des principes qui méritent d'être protégés.
Alors comme vous interpellez Michel Combeau, je vais vous laisser répondre.
Oui, je dirais, enfin, faut quand même rappeler que l'Internet a été construit alors, très majoritairement avec des fonds privés, hein, donc c'est quand même des investissements qui sont lourds, qui doivent être rentabilisés. Quand vous parliez, madame la ministre, d'endettement de certains opérateurs, il faut aussi à un moment arriver à prouver à votre investisseur vous avez un retour sur investissement. Voilà, et donc ça, effectivement, nous en sommes, je dirais, tout d'accord qu'à un moment, voilà, il faut arriver en tout cas à pouvoir vendre un service et qui est attendu par les clients. Et je dirais, si c'est le client est roi, il choisira effectivement le service qu'il attend, et s'il n'est pas content, il changera notre capacité, en tout cas d'industrie, c'est d'arriver à fidéliser ce client-là, lui offrir ce qu'il attend. Et quand je parlais de surréglementation, et vous parliez, je pense que le mot que vous citiez tout à l'heure est juste, c'est l'équilibre.
Oui.
Quel est l'équilibre en fait entre des règles claires pour tout le monde ? Nous, ce que nous souhaitons, ce sont des règles qui soient prévisibles et stables. Et on a eu un moment aussi, y compris dans le précédent quinquennat, beaucoup de textes qui arrivaient. Donc nous, notre enjeu, c'est de pouvoir dire, nous connaissons les règles à l'avance, et nous pouvons investir en se basant sur ces règles-là. Si les règles évoluent, prenons le temps de les faire évoluer, mais évitons de les changer toutes les années. Et parfois aussi, on a des règles qui sont parfois même trop précises. Qui peuvent parfois brider, je dirais, notre capacité à innover. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un certain nombre de règles claires, les capacités aux régulateurs d'intervenir en tant que de besoin. C'est d'ailleurs la façon dont BEREC a publié son rapport et finalement intervient en tant que de besoin au cas où des problèmes sont avérés, et de pouvoir aussi avoir la visibilité sur le long terme sur ces règles-là pour nous permettre d'investir et faire notre métier d'opérateur.
Axel Lemaire.
Qu'est-ce que la régulation ? Oui. En fait, la manière d'entendre ce terme est très différente selon qu'on est en Europe ou qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, la régulation, ce qu'ils appellent « regulation », c'est un truc bureaucratique qui serait anti-innovation et qui, au final, aboutit à très peu de concurrence entre les acteurs. Quand on est aux États-Unis, on paye ses abonnements d'accès à Internet et à la téléphonie très cher, et on a le choix au maximum entre deux opérateurs. Mais selon la conception européenne, la régulation, elle sert la concurrence, c'est-à-dire c'est celle qui permet d'ouvrir le marché. Et donc cet argument, en réalité, je le trouve assez favorable aux opérateurs de télécommunications, et le parti pris des responsables publics en Europe, c'est de dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est de mettre sur le même pied d'égalité tout les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les opérateurs de télécommunications, les telcos, d'un côté, ceux qui fournissent les infrastructures d'accès au réseau, mais aussi les plateformes numériques, les fameux GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Et donc, les mêmes régulations seront applicables à tous. Par exemple, pour la protection des données personnelles. Mmh. Alors, c'est vrai que les opérateurs de télécommunications en Europe pourraient dire c'est quand même pas juste, nous, on est soumis à un niveau de contrainte réglementaire très forte sur ce sujet, alors même qu'on voudrait aller voir ce qui se passe dans les tuyaux pour adapter nos offres, les profiler en fonction des consommateurs, etc. Et ce qui est répondu, c'est écoutez, les mêmes réglementations vont s'appliquer à tous. Donc, égalité dans l'application des réglementations. C'est une vision très différente de la régulation.
Sur la question de l'accès social à Internet, vous avez parlé des internautes, du prix. Alors, j'essaie de me placer dans la situation d'un internaute qui utiliserai Internet uniquement de temps en temps pour une fonction très précise, parce que je sais que je vais simplement, par exemple, regarder les horaires de la SNCF et puis aller voir, je ne sais pas moi, où quelle est la météo, par exemple, pour demain. Et puis, je m'en sers pas autrement. Je peux très bien me dire... Ah ben finalement, à cause de cette neutralité du net, je vais payer finalement un même niveau d'abonnement que quelqu'un qui passe ses journées sur YouTube et ses nuits sur YouPorn, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a un gros consommateur d'Internet. Est-ce que j'aurais pas intérêt, moi, en tant que consommateur, qu'on me propose justement un accès différencié, limité à Internet, parce que je paierais beaucoup moins cher? Valérie Nicolas.
Ça, c'est l'approche d'un principe d'égalité qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la conception française du principe d'égalité. D'abord, ce principe d'égalité.
Mais si on me dit, moi, pour 2 euros par mois, vous avez ça,
c'est uniquement vos besoins. Ça existe sur le marché, les offres à 2 euros.
Exactement.
Oui, ça existe, les offres à 2 euros, mais qui ne sont pas limitées. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on ne peut plus baisser les prix.
Elles sont libres, c'est-à-dire qu'on peut choisir le contenu.
Ça veut dire qu'on a atteint un plancher au niveau des prix, par exemple, et qu'on ne pourrait plus gagner.
C'est plus au niveau de la consommation, par exemple, en volume de data, en volume de données. Mais en revanche, c'est pas mon opérateur qui peut me dire si j'ai accès à tel réseau social. YouTube, c'est permis, Apple Pay, c'est interdit. Par contre, on va pousser Orange Pay, par exemple. Voyez, l'accès à la bibliothèque reste ouvert et c'est pas parce qu'on prend ce couloir pour aller chercher tel type de livre qu'il faudra qu'on paye plus.
Elle ne vous souhaite pas un petit peu plus, mon idée, Michel Combeau?
Sur la partie d'Internet fixe, avec le fil raccordé à l'ordinateur, clairement la demande des gens, c'est effectivement d'avoir, pas forcément avoir un nombre de mégabits ou gigabits par mois. C'est pas du tout en tout cas la demande des gens. C'est vrai que sur mobile, pour autant, c'est ce qu'on l'on voit et c'est ce que les opérateurs commercialisent, c'est un nombre de gigas par mois. Effectivement, cette limite monte d'ailleurs avec l'évolution des usages. On est en doublement du trafic sur les réseaux mobiles et clairement, c'est notre capacité à offrir plus ou moins de consommation de données aux abonnés, avec un principe bien, c'est qu'effectivement, après, dans cette enveloppe de consommation de données, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en termes d'accès. C'est effectivement, nous, on s'adapte à la demande de nos clients, et c'est vrai qu'on le voit notamment sur mobile, de plus en plus, les gens veulent des gros forfaits pour consommer et pour pouvoir accéder à l'ensemble des services sur Internet.
Non, mais j'évoquais par exemple, et je le faisais à dessein, YouPorn, je pourrais très bien aussi revendiquer d'avoir un Internet sans pornographie, c'est-à-dire là, il y aurait forcément une forme de discrimination par rapport au contenu. Or, ça n'existe pas, ça, c'est-à-dire il y a une autorisation parentale, il y a un contrôle parental.
Oui, exactement. C'est effectivement, mais ça, c'est déjà dans le contrôle parental. Que vous, qui est donc fourni par les opérateurs, leurs clients, ils peuvent paramétrer le type de service auquel les personnes du foyer n'auront pas accès. Les contenus, effectivement, qui peuvent être choquants, sans pour autant être illicites, peuvent être effectivement filtrés à la demande du client. C'est le client qui va choisir, effectivement, ce à quoi il a droit, en fonction, je dirais, de ses choix. Mais c'est finalement sa liberté à lui, notamment pour protéger ses enfants, et c'est un vrai enjeu, en tout cas pour nous, au sein, je dirais, d'un dialogue pédagogique au sein du foyer.
Donc on ne bloque rien, a priori, c'est un principe qui est important, mais c'est pas... Alors autant c'est un principe qu'on pourrait comprendre qu'il soit absolument défendu aux États-Unis. On sait bien que, voilà, la liberté d'opinion est très importante.
Ouais, que le premier amendement n'intervienne pas dans le débat public, en fait, sur le respect de la liberté d'expression. Parce qu'on voit bien que ça a une conséquence directe sur le type de contenu qui sera apporté, cette fois pas uniquement aux consommateurs, mais j'ai envie de dire aux citoyens.
Et une culture européenne où il peut y avoir peut-être justement davantage de régulation et où là on défend peut-être encore plus cette
neutralité du net. Tout à fait. Et alors je pense qu'une des raisons pour lesquelles on entend un peu moins les GAFA, justement, donc les plateformes qui produisent des contenus dans ce débat actuel, alors même qu'ils ont été farouchement en faveur de la neutralité du net dans les premiers combats historiques, c'est parce que aujourd'hui ils sont dans le collimateur de Washington et des pouvoirs publics aux États-Unis après l'élection présidentielle là-bas, du fait des fake news et de l'intervention d'opérateurs ou d'acteurs étrangers qui auraient pu avoir une influence sur le résultat des élections démocratiques. Et du coup, ils sont dans le collimateur justement sur le sujet du filtrage des contenus, faut-il que ces plateformes contrôle ce qui se passe sur leur... Tout à fait, mais selon quel niveau. Et donc c'est le débat actuel aux États-Unis. Et du coup, eh bien, les GAFA ont plutôt gardé profil bas, en tout cas plus qu'auparavant, sur ce débat actuel sur la neutralité du
net. C'est-à-dire que le premier amendement a été très utile, elle aura été très utile lorsqu'il a été question de gagner la bataille qui a été de justesse gagnée de l'instauration du principe de neutralité aux États-Unis. Et pour l'instant, il n'est pas évoqué, mais dans leur intérêt. Mais je pense qu'on raisonne dans leur intérêt et sur place aux États-Unis. Dans notre État français, dans nos États européens, la question de la liberté, comme vous l'évoquiez, monsieur, est une question, et de la liberté du consommateur est une question qui est fondamentale. La question de l'égalité de tous dans le traitement et dans l'accès au contenu, c'est aussi une question qui est fondamentale. Et les offres, nous avons autant de liberté de choix des offres qui nous sont faites dès lors que ces offres, j'allais dire, sont proposées de manière neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination entre nous, et ni dans le contenu, ni dans l'offre qui nous est faite. Nous avons la liberté de choix. C'est ça l'idée aussi.
Est-ce que ce qui risque de se passer demain aux États-Unis, avec probablement cette suppression de cette réglementation liée à la neutralité du net, peut avoir un impact, justement, sur nous, Européens, ou bien est-ce que ça n'en aura pas, Valérie Nicolas?
C'est compliqué de savoir. Moi, j'ai pas l'impression que ça ait un impact. D'abord, ça n'a pas d'impact sur l'application de la loi française. Ça n'a pas d'impact sur l'application de la réglementation européenne.
Ça
peut donner des idées. On les a déjà devant nous, les idées du PDG d'Orange, les idées de ceux qui nous disent que les technologies innovantes vont nécessiter de repenser la neutralité, voire de la supprimer parce que elle est un frein. Donc ces idées-là, on les a. On n'a pas besoin des États-Unis pour que rupture avec le principe de neutralité, il se passe et que ça a des conséquences sur nous. Je pense que ça peut-être avoir des conséquences en termes de concurrence entre les opérateurs. Mais moi, j'ai pas de visibilité en tant que juriste de la chose. Je pense qu'il y a plutôt une visibilité économique des conséquences. De la suppression du principe.
Michel Cambeau, comment est-ce que les opérateurs français des télécommunications appréhendent cette décision qui sera prise demain ?
Je dirais, comme je le disais en introduction, la situation est quand même difficilement comparable à la fois par la structure des marchés, par le corpus, je dirais, juridique qui entoure le principe de neutralité du net. Alors, c'est vrai que je voulais peut-être revenir un peu sur la déclaration là, d'un des membres de la fédération. Je dirais, le vrai sujet, notamment, on le voit avec la 5G, c'est-à-dire qu'on a...
En l'occurrence, vous parlez de Stéphane Richard, c'est ça, de PDG?
Voilà, donc, je dirais, le vrai sujet qu'on va arriver, par exemple, avec la 5G, on aura des services qui vont demander différents typologies, je dirais, de qualité. Par exemple, quand vous serez sur les véhicules autonomes, vous aurez besoin d'une latence très très faible, c'est-à-dire le délai de réponse entre, je dirais, le véhicule et le réseau devrait être très faible. Et donc là, effectivement, il va falloir que nous interrogions collectivement sur la manière de pouvoir mettre en œuvre ces services, et c'est notre capacité à le faire. Là, c'est un vrai enjeu de compétitivité industrielle et en Europe et en France, voilà, dans le respect ou même dans l'évolution de ces principes. C'est pour nous un vrai enjeu, mais c'est, je dirais, un enjeu de ne pas favoriser tel ou tel type d'acteur, mais de savoir, à services différents, comment mettre en œuvre, je dirais, ces innovations.
Axel Lemaire.
Utiliser l'argument de l'arrivée de la 5G à l'horizon 2020, 2022, 2023, et des véhicules autonomes, par exemple, pour remettre en cause le principe de neutralité du net, serait une grave erreur. En revanche, les chantiers qui restent ouverts, sont ceux de l'interopérabilité des standards, de leur ouverture, c'est-à-dire comment on va réussir à créer des réseaux d'objets connectés ou des véhicules de ce type, ou des services spécialisés qui respectent le principe de neutralité et qui puissent être utilisés sans discrimination. Mais ça, c'est une question de définition des protocoles techniques et c'est aux opérateurs de se mettre à l'œuvre. Moi, je vois en Italie, par exemple, une ville comme Milan sera à la pointe de l'expérimentation en termes de déploiement de la 5G. Eh bien, Milan, comme le reste de l'Italie, va respecter le principe de neutralité de l'Internet. Donc, l'argument du manque à gagner économique qui freinerait et l'innovation et le déploiement des infrastructures est un faux argument.
Ouais, c'est sur cette réponse-là que nous allons nous quitter pour ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à la discussion. Michel Cambeau, donc, je rappelle, directeur général de la Fédération française des Télécom, Axel Lemaire, secrétaire, ancienne secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation, Valérie Nicolas, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Si ces questions vous intéressent, et je n'en doute pas, je vous invite à écouter également, alors déjà à réécouter cette émission comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moudre, et écouter Les Matins de France Culture demain de Guillaume Herner. Ils seront aussi consacrés notamment à cette question de la neutralité du net en compagnie de Sébastien Soriano, qui est le patron de l'ARCEP, et de Benjamin Bayard, un des fondateurs de la Quadrature du Net. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.